c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de La Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps », à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Bonjour à vous, alors j'espère que vous allez bien. Sur Radio Plus, nous ne sommes pas en grève et nous avons choisi de commencer cette semaine avec vous pour vous faire oublier les tracas quotidiens. Et oui, dehors, les clairs matins sont coiffés de jaune et le cœur des jonquilles est en goguette. Alors on oublie les grèves, SNCF, Air France, éboueurs, gaz, électricité. Toutes ces grèves qui impactent notre pays, on reste zen et on profite à fond du printemps, de ces petits rayons de soleil qui voudront bien se montrer aujourd'hui. C'est l'air du temps. C'est l'air du temps et je vous souhaite une excellente journée.
Viens goûter au bleu du ciel, viens défroisser tes ailes. Le printemps nous appelle, sauvons-nous, viens. La pluie s'est fait la belle. Avril tient la chandelle, effeuillons l'hirondelle, aimons-nous, viens. Oublions nos rancœurs, parlons-nous corps à cœur, allons jouer au docteur, sans tabou, viens. Entremêlons nos arts, mélangeons nos couleurs, retrouvons la fraîcheur entre nous. Viens, viens t'y voir dans mon jeu, t'admirer dans mes yeux et rallumer le feu à nos joues. Viens, recollons les morceaux de nos cœurs d'artichauts, capricieux compris l'eau, loin de nous. Viens, quittons le quotidien et refaisons le plein de ces grands petits riens. Bout à bout, viens, jouons au plus malin, laissons sur le chemin l'araignée du matin loin de nous. Sans toi, à quoi bon entrer dans la danse? Sans toi, à quoi bon vivre plutôt rêver? À toi, avec qui la vie se balance. À toi, avec qui s'entête l'été. viens les froisser tes ailes. Le printemps nous appelle, sauvons-nous.
Sans toi,
la pluie s'est fait la belle.
À quoi va rentrer dans la danse?
Et feuillons l'hirondelle, aimons-nous.
Sans toi,
viens t'y voir dans mon jeu.
À quoi vont vivre dans ton rêve
et rallumer le feu à nos jours
sans toi?
Pascal Marie, et c'est sur Radio Plus. Alors cette semaine dans l'air du temps, nous retrouverons Jean-Louis Ouattet. Oui, nous sommes au mois d'avril, c'est vrai, et c'est vraiment le mois du réveil de la nature et de sa biodiversité. Le soleil est de retour et avec lui quelquefois un petit peu de douceur. Alors bien que les températures soient encore basses quelquefois, eh bien elles sont suffisamment élevées pour déclencher les premières floraisons. Et qui dit fleurs dit abeilles. De plus en plus nombreuses, on va dire, à quitter la ruche. Dès que le printemps, dès que les températures avoisinent les 12-13 degrés, elle quitte la ruche à la recherche de tous les premiers nectars et pollens de printemps. Alors nous en parlerons avec Jean-Louis, président de l'Étrême Nature, car figurez-vous que s'ouvre un débat pour savoir si les abeilles domestiques ont droit d'asile dans les espaces naturels protégés. La suite donc tout à l'heure. Alors c'est le printemps, on entend la terre qui se réveille, les premiers bourgeons pointent le bout du nez, les fleurs parfument l'air et les premiers jeunes légumes font leur apparition. On était jusque-là privé de couleurs, poireaux et choux laissent doucement de la place au printemps. Alors quels fruits et légumes en avril, mois durant lequel il ne faut pas se découvrir d'un fil. Si le soleil pointe le bout de son nez, eh bien la pluie est encore bien présente et la météo du mois d'avril permet de faire pousser uniquement certaines variétés de fruits et légumes. Il faut donc faire attention à bien choisir. Et Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, nous guidera. Et pour notre dernière rubrique, eh bien nous mettrons en point de mire un véritable artiste qui, à partir d'une souche d'arbres, après un nettoyage, un dégrossissage, donne une forme en la travaillant, la pensant, faisant apparaître tantôt un visage, un animal qu'il teinte et vernit ensuite. Alors c'est à voir absolument, et Patrick Leroux expose actuellement à l'hôtel de ville de Labassée sous le pseudonyme de Patler. Voilà, c'est sur Radio Plus et ce sont finalement des choses simples comme ces odeurs du mois d'avril. Mémo.
Une petite bouffe entre copains, petit plaisir et gros chagrin. Quand l'alcool est aux confidences, que la pudeur prend ses distances. Pour quelque temps se sentir bien, ne plus penser au lendemain. Quand la vie fait les étincelles, quand on la voit plus belle. Vivre les choses simples, des moments légers. Se poser juste un instant et se laisser porter par le temps qui passe, ne pas lui faire face. Traverser le présent pour s'en faire un passé. Cette petite lueur attisée par ces petits bonheurs, sourire complice, instant fragile pour se sentir enfin tranquille. Ne plus redouter le silence, se dire qu'on a bien de la chance. Marcher encore sans rien se dire et le temps d'un soupir. Vivre les choses simples comme un rêve éveillé, emporté par le courant, ne plus vouloir lutter. Mais si le temps presse, si la vie nous blesse, maquiller le présent de souvenirs légers. S'asseoir aux terrasses des cafés, ne rien attendre, juste observer. Dans la fourmilière de la ville, s'enivrer des parfums d'avril. Joli bouquet pour une belle, un petit dîner aux chandelles. Se faire la cour, se croire poète, faire l'amour sous la couette. Vivre des choses simples, des moments légers, se poser juste un instant et se laisser porter par le temps qui passe, ne pas lui faire face, traverser le présent pour s'en faire un passé. Vivre des choses simples comme un rêve éveillé, emporté par le courant, ne plus vouloir lutter. Et si le temps presse, si la vie nous blesse, maquiller le présent de souvenirs légers.
Vivre des choses simples, s'enivrer des parfums d'avril, comme le chantait Mémo, se laisser porter par le temps qui passe. Et oui, c'est vrai que le temps passe vite et quelquefois très très vite. Et nous voici déjà en avril et nos jeunes en classe de terminale doivent actuellement se décider sur leur avenir. Alors une étude révèle que la moitié des jeunes de 18 à 30 ans ne savent pas comment choisir leur futur métier. Et bien souvent, celui-ci est le fruit du hasard.
Je ne serai pas cosmonaute, je ne planterai pas des petits drapeaux sur des cratères, un peu serré dans ma combi fluo, mais pas peu fière. Je ne serai pas la première dame présidente des États-Unis. Je ne m'allongerai pas sous mon bureau ovale les jours de pluie. Je ne serai jamais concertiste à l'île du Levant, ni diva au Capitole sur le Bosphore. Je ne conduirai pas de gros bateaux à hélice avec des retraités en chemise colorée qui baillent sur des transats. Je ne ferai sûrement jamais la geisha pour homme d'affaires japonais au 23e étage d'un hôtel avec double vitrage et vue imprenable sur les lumières de la city. Je ne serai paradis du barreau. Je ne réglerai pas la circulation à l'angle de la rue Hoche et du carrefour André Malraux. Au bord de la Nationale 7. Je ne serai pas agent de sécurité à la Century Fox. Je n'animerai pas des stages d'épanouissement personnel en région PACA. Je ne serai raisonnablement pas hôtesse de l'air pour la Lufthansa. Je ne sauverai pas des vies en réparant des corps avec des outils en métal froid. Je ne serai pas peintre en bâtiment, ni sculpteuse sur pierre qui vit de son métier, ni tatoueuse d'omoplate à Ibiza en juillet-août. Il y a peu de chance pour que je sois auxiliaire de vie dans un centre de soins palliatifs. Je n'échapperai pas à un attentat au sommet du G8. Je ne résoudrai pas l'équation de la vie ou de son engeance. Je n'aurai jamais accès à certaines couches de ma propre intelligence. Surveillante de baignade pour le compte d'une municipalité communiste. Je ne serai pas arrêtée après une longue cabale dans le sud du Mexique. Je ne nagerai pas avec les dauphins pour en faire un livre qui raconterait mon expérience. Je ne me marierai vraisemblablement pas avec Johnny Depp, quoique. Je ne serai jamais penchée sur une chaîne de montage à enchaîner un écrou sur la partie droite d'un caisson en aggloméré destiné à intégrer un meuble de rangement.
Eh bien, elle ne sera pas, mademoiselle. Eh bien, c'est bien. C'était Clarica. Alors, lui... C'est pas qu'il ne sera pas, il est président de l'Extrême Nature. Et avec lui, chaque semaine, nous nous penchons sur notre environnement.
Ça danse sur la planète. drôle, drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Avril, la nature se réveille vraiment, les bourgeons ont éclaté, les fleurs sont apparues, et avec elles les bourdons et les abeilles. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors les abeilles, eh bien on en a déjà beaucoup parlé, et on en parle encore aujourd'hui Jean-Louis, et on en reparlera encore avec vous, en l'occurrence parce que la ville de L'Étrême et votre association L'Étrême Nature allaient organiser début juin une semaine d'animation sur les abeilles sauvages, ces abeilles qui ne font pas de miel, et pourtant si utile. Alors nous reviendrons donc sur le sujet le moment venu. Mais Jean-Louis, je pense qu'à présent tout le monde connaît le rôle essentiel des abeilles dans la biodiversité, à savoir qu'elles participent à près de 80% de la pollinisation des espèces végétales et donc contribuent à la survie, à l'évolution et à la reproduction des plantes et donc des cultures. Alors il y a les abeilles domestiques, celles qui font le miel dans des ruches, et puis il y a les autres, dites sauvages, et les deux sont en danger. Alors Jean-Louis, dites-nous d'abord quelles sont les différences entre les deux.
Alors, c'est vrai que quand on parle abeilles, tout de suite, automatiquement, on imagine ruche, miel, alors qu'il s'agit d'un type, d'une espèce d'abeille, hein, qu'on appelle Apis mellifera, qui a été domestiquée. Bah, elle a été sauvage, bien entendu, à l'origine. Hein, on va encore, dans certaines régions, chercher du miel en haut des cimes des arbres. Hein, donc, c'est vrai que cette abeille vit encore à l'état sauvage, mais elle a été domestiquée pour produire du miel. Il faut savoir qu'elle n'est pas la seule, hein. Elle fait partie d'une famille qu'on appelle les hyménoptères, et savoir qu'il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, dont 2 000 en France, et une seule, donc l'Apis mellifera, qu'on a domestiquée, donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'abeille domestique, qui fabrique du miel et puis qui est élevée justement à cette fin. Donc les autres espèces d'abeilles vivent dans la nature sans intervention humaine. Elles ne fabriquent pas de miel, ce qui explique un peu le désintérêt des humains à leur égard pendant des siècles. Hein. Pourtant, comme les abeilles de nos ruches, elles jouent un rôle primordial dans la pollinisation et puis dans la répartition des plantes sauvages. Hein. Et certains fruits et légumes, les fruits, les poires, les fraises, les tomates, les poivrons, aubergines, etc. Donc on distingue deux catégories d'abeilles sauvages. Il y a les abeilles qu'on appelle solitaires, qui vivent seules, et puis les abeilles sociales, qui vivent en petites colonies comme l'abeille domestique. Bah, par exemple, les bourdons, qui sont bien connus, qui vivent en colonies. Donc dans tous les cas, les abeilles sauvages sont végétariennes, elles se nourrissent de pollen et de nectar qu'elles vont récupérer sur les fleurs. Elles prélèvent le pollen pour leurs larves. Et certaines espèces sont très généralistes, hein, elles peuvent butiner nombreuses variétés de plantes. Par contre, d'autres sont beaucoup plus spécialistes, elles ne butinent qu'une seule espèce, ce qui les rend dépendantes, bien entendu, de la présence de ces plantes. Et puis aussi, ces plantes ont besoin justement de cette abeille pour polliniser. On pense par exemple à la collette du lierre, qui ne butine que sur le lierre. Donc ces abeilles sauvages sont extrêmement importantes. Par rapport aux abeilles domestiques, elles ont un rayon de butinage très court. Le rayon d'action des abeilles sauvages est de l'ordre de la centaine à quelques centaines de mètres. Très différent de l'abeille domestique qui peut quand même aller de 1 à 3 kilomètres. Donc cette très faible surface couverte rend importante justement la présence des plantes sauvages et puis donc la nécessité de mettre en place des mesures de sauvegarde.
Alors oui, parce que justement ces deux espèces sont en danger, Jean-Louis.
Bah oui, parce que toutes les abeilles, hein, qu'elles soient domestiques, Apis mellifera ou toutes les autres abeilles, elles sont touchées de la même façon. Les principales causes de déclin sont de deux ordres. Hein. La première, bien entendu, c'est l'exposition aux produits chimiques. Et puis la deuxième, c'est la perte de ressources alimentaires. Alors, faut savoir que les pesticides, notamment les neurotoxiques, hein, vont désorienter les abeilles, modifier leur comportement, fragiliser leur système immunitaire. Et donc, il y a beaucoup de dégâts. Hein. Bon, on a parlé des néonicotinoïdes hein, qui sont très dommageables pour les abeilles. Alors quand on parle de ce problème, on pense bien entendu toujours à l'abeille domestique, mais ça concerne aussi toutes les espèces d'abeilles. Et puis deuxièmement, les abeilles ont besoin pour assurer leur cycle de vie d'un pollen de qualité, hein, issu d'une flore diversifiée. Alors il faut savoir que le pollen, c'est une source de protéines. Et puis elles ont besoin aussi de nectar, qui va être source d'énergie pour les abeilles. Donc la diminution de la biodiversité dans les espaces agricoles, liée à la monoculture, ça a eu pour conséquence une réduction du nombre d'espèces de plantes disponibles. Un raccourcissement aussi des temps de floraison, qui est un sujet vraiment important. Donc, au manque de pollen qui entraîne l'absence de réserves suffisantes, s'ajoute aussi un manque de diversité hein, qui va affecter la bonne santé des populations d'abeilles. Alors, savoir que près de 80% des espèces de plantes à fleurs sauvages et 70% des espèces cultivées en Europe dépendent de l'activité pollinisatrice des insectes. Alors, bien entendu, ça ne limite pas aux abeilles. Hein. Il y a aussi les papillons, il y a aussi les coléoptères, mais les abeilles sont quand même majoritairement les agents de pollinisation.
Alors, Jean-Louis, justement, il commence à y avoir un débat pour savoir si les abeilles domestiques ont droit d'asile dans les espaces protégés, ce qui mérite quand même quelques explications. Alors, certains apiculteurs installeraient-ils des ruches ailleurs que chez eux et justement pourquoi ?
Alors, on parle beaucoup, à juste titre, des menaces qui pèsent sur les abeilles, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais derrière le mot abeille, faut savoir que, croyant bien faire, de nombreuses collectivités ont installé des ruches dans les espaces verts, dans les milieux naturels, et donc c'est aussi problématique parce qu'on va le voir, ça prend justement les espaces nécessaires pour les abeilles sauvages.
Tout à l'heure, c'est vrai que à un moment donné, on a cité beaucoup les gens à installer ou faire installer une ruche, comme vous venez de le dire, que ce soit chez soi ou ailleurs. Il y en a même qui les ont mis dans les zones urbaines et sur des toits. Hein.
On les a mis sur des toits, tout
oui,
à fait.
Oui, tout à fait, des endroits presque inattendus. Alors, et donc, on l'a compris, pour pallier à la disparition, c'était pour pallier à la disparition des abeilles mellifères. Mais donc, côté écologie et biodiversité, d'après ce que vous dites, ce serait presque une erreur de confondre un petit peu l'apiculture, qui est une activité agraire, avec la conservation de la faune. Ce serait
pas. Il faut savoir qu'un facteur qui participe au déclin des populations d'abeilles sauvages, c'est probablement dans certains endroits la surdensité d'abeilles domestiques. Il faut savoir que quand on met une ruche dans un espace naturel, c'est des dizaines de milliers d'abeilles. Et donc, il faut savoir que ces abeilles, elles vont utiliser l'espace disponible, toutes les fleurs à disposition. Et donc, tout ça, ce sera en moins pour les abeilles sauvages,
bien
qui,
sûr,
elles, ont des rayons de butinage très courts. Donc, si vous installez une ou plusieurs ruches, souvent c'est plusieurs ruches, dans un milieu naturel, c'est sûr que c'est de la ressource alimentaire qui va disparaître pour les abeilles sauvages. Donc, les interactions, c'est sûr qu'elles ne sont pas encore bien connues. Hein. Il y a des bols sur la question, mais je pense que le principe de précaution devrait primer. Les abeilles domestiques peuvent empêcher l'accès à une ressource alimentaire pour certaines espèces d'abeilles
sauvages,
qui sont des espèces d'abeilles qui vont butiner plusieurs fleurs. Bon, il y a des abeilles qui vont butiner un seul type de fleur. C'est peut-être moins problématique, mais la majorité quand même vont butiner plusieurs espèces.
Tout à fait.
Et donc, elles sont en compétition avec les abeilles domestiques.
Donc ça veut dire à peu près, si je résume, un petit peu chacun chez soi, quoi.
C'est-à-dire qu'il faut pas, il s'agit pas de bannir l'abeille domestique à sa place dans les milieux naturels. Hein, le discours n'est pas là. Mais je pense qu'il faut être, raison gardée. Il faut être vigilant justement sur ce problème parce qu'il y a des études qui ont montré que on avait une surdensité et donc c'était nuisible pour les différentes espèces d'abeilles sauvages. Mais tout ça, c'est par méconnaissance, hein, parce que justement, cette préoccupation des abeilles sauvages, elle est quand même assez récente. Moi, je veux dire que nous, on se préoccupe de ça, on se préoccupe des abeilles sauvages que depuis quelques années. Hein. C'est un sujet Bah, qu'on n'avait pas, dont on n'avait pas pris la mesure.
Et pensez-vous, Jean-Louis, qu'il pourrait y avoir un consensus entre les responsables des espaces protégés et les apiculteurs?
Oh bah oui, de toute façon, c'est déjà mis en place. Hein. Je pense que on n'avait pas assez pensé justement à la sauvegarde de ces abeilles sauvages. Et je pense que bon, c'est vrai que c'est l'effet de pendule. On est allé un peu trop loin, on revient un peu en arrière. Mais de toute façon, je pense que la cohabitation est nécessaire et possible.
Hein. Et viable, on va dire. Voilà. En tout cas, on a bien compris avec ce que vous venez de dire. On a bien compris, on ne peut qu'inciter les gens qui ont souci de l'environnement et du maintien de la biodiversité. On ne peut que les inciter à mettre beaucoup de fleurs dans leur jardin ou alors sur leur balcon et surtout à ne pas tondre leur pelouse trop rase afin d'y laisser les petites marguerites ou même les pissenlits ou toute autre fleur source de nectar et de pollen.
Oui, tout à fait. Pensez un peu dans les pelouses, quand vous regardez un petit peu, il y a un peu de trèfle. Alors c'est vrai que le trèfle, certains jugent que c'est pas beau dans la pelouse, mais quand vous regardez les fleurs de trèfle qui sont butinées par les bourdons, c'est assez faramineux de voir un petit peu l'importance de ce trèfle pour les bourdons.
Tout à
Donc
fait.
Il faut privilégier les espèces productrice de nectar, choisir des fleurs, des arbustes. Alors avec une grande importance aussi, c'est de bien réfléchir à une grande amplitude de fleurissement, de penser à mettre des arbustes, des fleurs qui fleurissent tôt. Par exemple, je prends l'exemple du chèvrefeuille arbustif hein, qui fleurit très tôt, fin d'hiver, au début de printemps. Bon, c'est une mine d'or pour les bourdons et les osmies, les abeilles sauvages. Et puis aussi des fleurs de fin de saison, par
Tout
exemple le sédum.
Et on va voir ça avec... Et on va voir ça avec Bertrand Trinel, tout
Moi,
à fait.
Je suis en train de manger, je crois, sur son temps de parole, il me semble. J'ai bien compris. Hein.
Ah oui. En tout cas, Jean-Louis, merci. À savoir quand même que votre association Les Trèbes Nature œuvre beaucoup pour l'abeille sauvage et tout autre insecte pollinisateur. Et nous aurons donc l'occasion d'en reparler au mois de mai pour cette action que vous allez mener avec votre association. Bonne semaine à vous, Jean-Louis.
Bonne semaine. Et aussi, dernière chose que je dirais, agrémentez votre jardin potager de fleurs.
Voilà.
Très important.
Merci, Jean-Louis.
Bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Une abeille, un jour de printemps, voletait gaiement sur la rose bruyère en fleurs, dont si douce est l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs regardait voler dans le ciel la petite et son miel. Et la pauvre chenille en sanglots disait, je vous aime, mais l'abeille là-haut, tout là-haut, n'entendait pas un mot. Cependant que les jours passaient, la chenille toujours pleurait, et l'abeille volait gaiement dans le ciel du printemps. Après avoir pleuré jusqu'à la nuit, notre chenille s'endormit, mais le soleil de ses rayons vint éveiller un papillon. Et sur une bruyère en fleurs, notre abeille a donné son cœur, tandis que chantaient les
Henri Salvador avec cette chanson très bucolique. Alors donc, sauvegardons abeilles et papillons. Et pour cela, bien sûr, jardinons bio et de façon la plus naturelle possible. Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, nous dit comment chaque semaine.
C'est bio la vie, c'est naturel. Ça donne envie d'avoir des ailes. B-I-O, bio, bio, c'est bio. La vie rend la vie belle.
Ça fait bien aller à la selle.
Et c'est exquis, vive la vie. B-I-O, bio, bio, c'est bio la vie.
Bon, Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors à la Saint-Gaultier, jamais le jour entier ne passe sans giboulée. Et on pourrait ajouter que lorsqu'on va au jardin, on patauge un petit peu dans la gadoue, comme le chanterait Jane Birkin. Enfin, ça c'était la semaine dernière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps va, je pense, va se maintenir. Enfin, on espère, hein Bertrand, on espère. Alors c'est vrai que c'est le printemps, mais il ne faut pas trop s'y fier, car en avril, il y a encore des risques de gelée. Et en tout cas, le temps frais n'est pas à exclure. Il vaut donc mieux être prudent.
Oui, bien sûr. Mais il y a toujours des risques de gelée. Hein. Nous l'avons vu l'année dernière, hein, avec la grosse gelée d'avril, qui a fait péricler toutes les fleurs de fruitiers. Mais tant que les 5 glaces ne sont pas passées, le risque persiste, hein, faut le savoir.
Oui, c'est vrai qu'on parle toujours, c'est au mois de mai les 5 glaces.
C'est au mois de mai, donc on dit toujours 3 jours, mais en fait, c'est 6 jours.
6 jours, d'accord. Ouais. Alors Bertrand, le printemps, ce sont les narcisses et les jonquilles qui actuellement fleurissent partout. On vient de le dire avec Jean-Louis qu'il faut planter des fleurs dans son jardin, qu'ils soient d'agrément ou potager, et ce, pour permettre aux abeilles et aux autres insectes pollinisateurs de butiner pour les uns et de polliniser pour les autres. Alors l'idéal est bien sûr d'étaler la période de floraison dans son jardin du printemps à l'automne afin de leur procurer de la nourriture tout au long de la belle saison. Alors justement, avec quelles fleurs peut-on attirer les abeilles au mois d'avril? Et pour les abeilles domestiques, y a-t-il des fleurs plus mellifères que d'autres, Bertrand?
Alors oui, certaines fleurs sont beaucoup plus mellifères que d'autres, hein. Et les écarts sont même considérables, hein. Par exemple, si on prend les fleurs d'érable champêtre, hein, qui vont fleurir dans pas longtemps, de l'amier blanc, de facélie, de sauge, de mémilo, par exemple, il y a le thym, il y a le robinier, il y a le tulipier de Virginie, qui est aussi un arbre d'ornement, mais c'est quasiment une cuillère de nectar par fleur. Le Tetradium zanelli, lui, c'est ce qu'on appelle l'arbre à miel, donc c'est vraiment extraordinaire ce qu'il peut amener comme nectar. Bon, tout ça, c'est très mellifère, parce que ça donne plus de 500 kilos à l'hectare. C'est plus de 500 kilos de miel à l'hectare. Alors, il y a d'autres qui sont un peu moins mellifères, comme la bardane, c'est un peu moins mellifère, le népétole, l'équinoxe, le colza, la moutarde des champs, la menthe, l'hysope, le trèfle. Tout, c'est entre 250 et 500 kilos de miel à l'hectare. Donc, il y a une multitude d'autres fleurs qui vont offrir ce précieux nectar, quoi. Et elle donne pas d'ailleurs que le nectar, elle donne aussi, quelque chose qui est très intéressant pour les abeilles, solitaires ou domestiques, hein. C'est du pollen, qui est une bonne source de protéines pour nourrir les abeilles, les larves.
Alors, justement, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Louis, d'abord, on y reviendra après. Pour moi, c'est vrai que Bertrand, pour moi, le printemps côté légumes, c'est on va d'abord parler légumes, si vous le permettez. C'est le radis. Alors, on les voit à présent sur les étals et je crois qu'il est incontournable dans tous les potagers. Et en plus, on a l'impression que c'est avec lui que l'on peut initier les enfants au plaisir du jardinage. Alors, peut-on les semer actuellement? C'est vrai, on peut dire, qui n'aime pas le radis? Tout le monde aime le radis. J'en connais même qui en sème dans des jardinières. C'est possible, hein, ça, Bertrand?
Oui, tout à fait, c'est possible. Alors, pas de problème pour les semer, c'est bien le moment de semer les radis, hein, donc soit en ligne, soit à la volée. Alors, donc, bien sûr, dans une bonne terre de jardin bien humifère, hein. Donc on les sème plutôt en lune montante, hein, donc ça tombe bien parce que depuis hier, on est en lune montante jusqu'au 21 avril. Et en plus, si c'est un jour racine, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, est un jour racine, donc si vous voulez semer vos radis aujourd'hui, c'est très bien. Bon, attention parce que demain, c'est un nœud linéaire, donc demain, on fait rien au jardin. Donc, les graines de radis ronds doivent quasiment pas être enterrées. Hein, ça faut le savoir. Celles de radis allongées doivent être mises à environ 2 cm de profondeur. Ensuite, vous pensez toujours à conserver la terre humide et vous éclaircissez quand il y a aux premières feuilles, c'est bon.
D'accord, donc on sème les radis aujourd'hui absolument.
Absolument, voilà. Alors, pour avoir de beaux radis.
Voilà, tout à fait. Alors, bon, justement, ce que je disais tout à l'heure, comme l'a précisé Jean-Louis, c'est vrai que le lierre est quelque chose d'important pour certaines abeilles. Alors, bon, on va parler un petit peu lierre. Il peut être une plante agréable pour camoufler des vieux murs, mais lorsqu'il s'affine dans le jardin et commence à s'attaquer aux arbres ou aux murets, certains le trouvent un petit peu envahissant et souhaitent s'en débarrasser. Alors Bertrand, certains disent que le lierre n'est pas une plante parasite et que l'arbre et lui peuvent se rendre service mutuellement, alors que d'autres disent qu'il faut absolument l'enlever car il étouffe l'arbre. Alors quel est votre avis, Bertrand?
Bon alors, déjà, il paraîtrait que les monuments anciens, hein, les monuments très anciens, les mieux conservés, les mieux préservés sont ceux qui sont recouverts de lierre. Ça, c'est une chose. Par contre, pour les arbres, il se dit effectivement tout et son contraire. Alors moi, pour en avoir fait l'expérience, je peux vous dire qu'il ne faut pas laisser un arbre se faire envahir par du lierre. Alors ça peut faire joli, hein, des lianes qui descendent, qui pendent aux branches, c'est très joli. Hein. C'est un refuge aussi pour des insectes, pour des oiseaux, c'est vrai. Mais personnellement, j'avais laissé deux arbres se recouvrir de lierre. L'un est mort étouffé et l'autre fut déraciné lors d'un fort coup de vent hivernal. Donc, à mon avis, c'est pas bien d'avoir du lierre qui grimpe aux arbres.
D'accord. Donc, il faut. Alors, bon, oui, il y a aussi les arbres d'ornement et les fruitiers. Pour les fruitiers, il faut absolument enlever le lierre.
Ah bah forcément, les arbres d'ornement et les arbustes d'ornement, les arbres d'ornement et les fruitiers, surtout ne laissez pas le lierre sur ces arbres-là, ça c'est évident.
Alors bon, Bertrand, si on veut enlever le lierre, naturellement, comment faire? J'insiste sur cette question, car si on cherche la solution sur Internet, on s'aperçoit qu'il y a encore des... Bon, je ne vais pas dire le nom, je ne vais pas employer de gros mots à l'antenne, vous m'avez comprise, il y en a encore qui recommandent l'injection de Roundup dans les racines. Alors, je sais que ça va vous faire bondir, ça.
Oui, tout à fait. Oui. Parce que, franchement, maintenant, il est quand même temps qu'on abandonne ce produit hyper nocif. Hein. Hyper nocif pour nous et hyper nocif pour la planète. Hein. Donc, voilà. Mais il existe forcément d'autres méthodes. Il en existe une pratique beaucoup plus naturelle. Hein. C'est celle où il faut utiliser l'huile de coude. Hein. Donc, on commence par couper le lierre à sa base, donc au pied de l'arbre. Il faut parfois utiliser une scie parce que les branches de lierre, ça devient parfois énorme. Il faut savoir. Hein. Hein, donc attention, si vous sciez la branche du lierre qui pousse, de ne pas blesser l'arbre. Ensuite, vous décollez la liane du tronc, toutes les branches, vous libérez l'arbre. Et puis pour la souche, il n'y a plus qu'à s'armer de courage et puis utiliser une bêche hein, et essayer d'enlever le plus possible de racines. Et puis ensuite, vous supprimez toutes les nouvelles pousses qui poussent chaque année. Mais essayez de ne pas, laisser grimper de lierre du tout sur un arbre. Ça, c'est franchement...
D'accord. Alors, une petite précision peut-être, Bertrand, car il paraît que la sève du lierre est toxique, donc bien se laver les mains ou alors mettre des gants hein, quand on...
Oui, c'est vrai, effectivement, j'aurais dû en parler. Hein. C'est effectivement une plante toxique, hein. Les feuilles, les fruits, tout ça sont très dangereux. Hein. Donc attention si vous avez des enfants, parce que c'est vraiment toxique. Alors oui, pour détruire le lierre, bah, mettez des gants, hein. J'avais oublié de le préciser, mais c'est vrai, il faut mettre des gants.
En tout cas, Bertrand, doit-on d'ailleurs laisser du lierre quelque part dans son jardin, car il est important pour la biodiversité et indispensable donc pour une certaine faune.
Oui, donc attention quand même de laisser trop de lierre dans un jardin, parce que c'est vraiment une plante invasive. Hein. Donc on pourrait croire que le lierre, c'est une bonne source de nectar, hein. Pour la fin de saison des abeilles, c'est vrai, hein, pour les abeilles domestiques, c'est une bonne source de nectar, c'est vrai, ils donnent beaucoup de nectar, donc c'est bien pour certaines abeilles solitaires qui s'en procurent, sauf que le miel, pour les abeilles domestiques, va cristalliser très très vite, hein, et devenir très dur. Du coup, on risque de perdre ses ruches, car les abeilles risquent de mourir de faim en fin d'hiver, quoi. Donc, trop de lierre dans un jardin, c'est pas du tout une bonne chose, c'est même surtout pas écologique. Alors, comment je pourrais vous dire, si vous aimez vraiment le lierre, bon, bah, mettez-en quand même un peu en décoration, mais surtout n'en abusez pas.
D'accord.
Ça se ressème partout en plus. Hein.
Oui, en plus, ouais. Oui, c'est très difficile, comme je le disais tout à l'heure, d'en venir à bout. Bertrand Trinel, merci. Du côté association, tout va bien?
Ah, tout va bien.
Les enfants se sont remis au travail dès ce samedi.
Les enfants se sont remis au travail dès ce samedi, donc je ne sais pas s'ils ont semé des... J'étais pas là pour voir s'ils ont semé des radis. Les cigognes couvent dans le jardin, voilà. Donc et puis à la fin du mois, on a un autre troc de plantes, hein, je le rappelle, le 28 avril, ceux qui s'intéressent, à 14h30, au jardin de l'Ermite, rue de la Gaugrie, à Vesquerque.
Voilà. Bertrand, merci.
Voilà.
On se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.
Allez, bonne semaine. Au revoir.
Au revoir.
Fraîche comme une rose, que l'on ne déflore sans peur, on écarte délicatement les pétales et on arrose. Du lierre qui court sur la peau blanche, jolie fleur et belle plante, des nervures jusque aux hanches, une belle plante, une plante d'un bon temps. Mais je me prends des râteaux à la pelle, c'est une mauvaise pioche, tu dois être trop belle ou moi trop moche. Et pourtant tu en redemandes et ton mec reste de glace, bien envie de piétiner ses plates bandes et de biner tes salades à sa place. Et j'essaime mes engrais à tout vent, j'égrène mes sèmes partout temps, je me fais papa de mille, j'ai la jeune mobile de rendre fertile l'idylle, propice qu'il subtil. Ouais mais moi, je me prends des râteaux à la pelle, c'est une mauvaise pioche, tu dois être trop belle ou moi trop moche. Explication. Et je t'aime bien Marguerite, un peu beaucoup à la folie. Excuse-moi si je t'évite sans t'effeuiller même à demi. Que je t'aime bien Marguerite, passionnément donc pas du tout. Excuse-moi si je palpite sans jamais aller jusqu'au bout. Alors j'ai acheté une serpette et un sécateur géant. Je suis reparti à la cueillette des pâquerettes à tout bout le champ. Une belle fleur, un joli coquelicot, des teints marrants d'amarante. Encore une plante grimpante, putain moi je la ferai bien grimper au rideau. Ouais mais moi je me prends des râteaux à la pelle. C'est une mauvaise pioche qui doit être trop belle ou moi trop moche. Une belle fleur, une jolie plante, plantureuse à mort. Une dentition plutôt charmante, c'est que ce doit être oh, une plante carnivore. Peine le temps de planter le décor, elle me plante la toucheuse. Elle m'en veut sans aucun remords, pas la pas bouler, hey, bouler sur les roses. C'est comme ça que je me prends des râteaux à la pelle.
Il s'appelle Emmanuel Bémer et c'est sur Radio Plus. Alors en point de mire aujourd'hui dans l'air du temps, de la sculpture sur souche, racine et maintenant arbre avec Patrick Leroux. Et oui, un proverbe espagnol dit habiller un bout de bois et ce ne sera plus un bout de bois. Patrick Leroux n'habille pas le bois, quoique, mais surtout il le façonne, il le travaille, il le sculpte. Tout simplement, il le fait vivre. Et si vous visitez l'exposition qui se tient actuellement à l'hôtel de ville de la Bassée, vous comprendrez de quoi je parle et vous repartirez ébloui par les œuvres accomplies, la plupart sur des souches d'arbres. Mais on va laisser parler l'artiste dont le pseudonyme est Patler. Bonjour Patrick Leroux.
Bonjour Radio Plus.
Alors, je ne chercherai pas à dissimuler le plaisir que j'ai de vous avoir à nouveau avec moi aujourd'hui pour nous parler de cette deuxième exposition qui se tient actuellement et jusqu'à dimanche prochain, dimanche 15 avril, à l'hôtel de ville de la Bassée dans le but de faire découvrir au public vos sculptures sur bois et souche. Alors, je suppose qu'il y a une certaine fierté pour vous dans la reconduite de cette manifestation par la municipalité de la Bassée, ce qui veut dire sans doute que déjà la première fois, le public ne s'y est pas trompé et s'est déplacé nombreux.
Eh bien tout à fait, puisqu'il y a 2 ans déjà, la première exposition de sculptures sur bois et souche a obtenu près de 1000 visites dans l'hôtel de ville de la Bassée, avec un programme pédagogique qui introduisait également les écoles de la Bassée, et plus de 400 élèves sont venus visiter et faire avec leurs professeurs des petits cours de pédagogie sur l'art plastique et la culture artistique en général.
Alors Patrick Leroux, quelles sont les questions récurrentes qui vous sont posées lors de vos expositions? Car chaque œuvre a son histoire, quelquefois son mystère, mais il y a le travail aussi, il y a les techniques employées. Alors que vous pose-t-on comme question?
Alors je peux vous dire que je suis inondé de questions, mais les deux premières qui reviennent tout le temps, c'est d'où vous viennent ces idées aussi imaginaires et aussi incroyables? Eh bien, écoutez, je leur dirais simplement, c'est tout le côté artistique d'un artiste, c'est-à-dire qu'il a un sens de la création et de l'imaginaire qui est important. Moi, je suis pas du tout un figuratif, hein, donc c'est la sculpture qui m'emmène par rapport à la racine que je trouve. C'est la racine, une fois nettoyée, une fois débarrassée de ses branches abîmées, ses branches mortes, des parties qui sont en train de pourrir parfois. Je finis par obtenir un volume et dans ce volume, je mets en place, à travers mon imaginaire, un animal, un corps, une fleur, bref, je me laisse aller. La deuxième question, c'est souvent, mais où vous trouvez toutes ces racines? Parce que il y en a quand même ici plus de 40 qui sont présentées. La fois dernière, on avait une cinquantaine. En fait, c'est tout simple. De par mon métier, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens qui ont des jardins et qui savent que je m'intéresse à ça. Et quand ils peuvent, bah, ils me proposent de dire, ben voilà, j'ai enlevé une souche parce que voilà, je dois refaire telle chose dans mon jardin, est-ce que ça vous intéresse? Donc bien entendu, tout ce qui est souche d'arbres nobles m'intéresse, notamment les fruitiers, et donc c'est comme ça que je récupère souches à droite à gauche, ou des très belles branches avec des formes tortuées et complexes.
Alors, il y a 2 ans, lors d'une précédente interview, vous nous aviez expliqué que votre passion pour la sculpture sur bois vous est venue en travaillant sur un tronc d'arbre et en découvrant ses racines qui vous ont emmené dans un monde imaginaire. Monde imaginaire, donc, que vous faites vivre et que vous offrez au public. Alors, on va y pénétrer avec vous, Patrick. Pourriez-vous nous présenter quelques-uns de ces personnages ou de ces figures?
Alors, bon, cette année, forcément, je suis très content et très fier parce que j'ai fait mes 2 folies. Ce sont 2 sculptures monumentales, dont une qui est en fait un arbre entier, un érable blond que j'ai trouvé dans la région de Vermel. Et grâce à l'agriculteur qui m'a trouvé cet arbre et qui m'a permis de l'extraire, bah lui, il l'a extrait avec ses tracteurs, ses manitous, et posé sur une palette de bois, j'ai pu me lancer dans cette folie. Et ça fait donc 3 ans que je suis dessus, 150 heures de travail, et j'ai réussi à sortir une femme tout à fait stylisée, représentant une maternité, dont le visage est en fait un globe terrestre qui représente les planètes, et dont le doigt indexé montre une mise en garde. Faites attention à ce que vous allez faire dans le ventre des femmes, et de par mon métier qui est médecin, je suis des fois très inquiet de savoir que plus tard, on va pouvoir séquencer le génome humain, enlever des petits bouts de gènes sur des chromosomes. Alors bien sûr, au départ, c'est à visée thérapeutique. D'ailleurs, on guérit maintenant quelques myopathies, mais on se méfie toujours des apprentis sorciers. Donc en fait, cette statue a une réflexion et une idée qui, j'espère, fera réfléchir les gens.
Ça veut dire qu'il y a quand même toujours une corrélation entre votre métier et votre passion.
C'est forcé, 32 ans de médecine, ça oblige un petit peu à avoir une réflexion sur l'humain, sur ce qui se fait autour de l'humain. Bien et comme sûr. Je suis très sensible à ce que représente la vie et sa richesse, que ce soit à travers les végétaux ou l'humain tout simplement, il y a forcément des interpellations qui se font. Il y a une sculpture qui s'appelle par exemple « Théorie du genre », qui veut exprimer la réflexion qu'on doit avoir entre... n'est-on sexué ou le devient-on? Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important parce que ça bouleverse tout le code civil, un tas d'éléments. Donc, c'est une réflexion qui est nécessaire. Et il y a 2 ans, j'avais été invité au salon Animasia à Lille, le salon des animaux, où le président Pierre Desnin m'avait demandé de trouver une sculpture sur la bienveillance animale. Et j'ai fait une sorte de primate enchaîné qui est en train de réfléchir à cette tristesse qu'est l'enfermement des animaux et la souffrance qu'on peut leur faire.
Formidable. Vous venez de nous décrire donc cet arbre que vous avez sculpté. Alors, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que vous voyez un petit peu toujours plus grand ou alors que vous avez toujours plus d'envie?
Bien sûr, je l'ai toujours, mais plus grand, non, parce que cette sculpture, c'était un hasard de trouver quelqu'un qui ait pu m'extraire cet arbre et j'aurais été tout seul, j'y serais jamais arrivé. Donc je pense que ça sera une œuvre unique. Et cet arbre entier restera peut-être le point d'orgue de mon travail. Mais non, je pense pas. Puis en plus, je vais vous avouer que c'est physiquement très dur. Et que à mes 60 ans bientôt, puisque c'est aujourd'hui, je veux quand même diminuer la charge pour préserver mon squelette.
Alors, Patrick Leroux, nous venons de fêter Pâques, la résurrection. Avec vous et chez vous, c'est Pâques tous les jours, car finalement, le bois mort ne reste pas mort longtemps, et vous lui donnez très vite une seconde vie.
Ah, tout à fait, c'est un bonheur. Ça serait mon rêve pour faire ça avec l'humain, mais malheureusement, ça n'est pas possible. Donc, le faire avec le végétal, c'est une chose merveilleuse, effectivement. Et j'insiste sur le côté vivant du végétal et de l'arbre, et j'invite les gens à lire les livres de Peter von Leeuwen
qui
parlent énormément de toute la vie qu'il y a autour d'un arbre. Je les ai lus récemment et je suis tombé sur le charme de cette lecture, car il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer et qui ont été étudiées, et lui qui est forestier ingénieur le démontre.
Tout à fait, comme nous tous d'ailleurs, et comme Bertrand Trinel qui en a beaucoup parlé. D'ailleurs, Bertrand Trinel, avec son association, qui est président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, donne aussi une excellente conférence autour des arbres. Et c'est vrai que quand on sort de cette conférence, on va dans son jardin un petit peu avec d'autres yeux. On regarde ces arbres un petit peu avec on a un autre regard, on va dire, sur toute, sur cette végétation. C'est vrai que c'est formidable que vous leur donniez une seconde vie parce que l'arbre, on va dire, l'arbre avec un grand A le mérite. Donc, exposition donc de vos œuvres toute cette semaine et ce prochain week-end à l'hôtel de ville de la Bassée. Et vous nous donnez les horaires, Patrick?
Alors, 10h, 12h le matin, 14h, 18h l'après-midi. Il y a un accès par un ascenseur pour les gens à mobilité réduite. C'est bien entendu gratuit. Seul petit inconvénient, mais c'est pas bien grave, je reçois plus de 750 élèves des écoles de la Bassée qui seront là en même temps, qui font un petit peu plus de bruit. Donc soyez tolérants si vous entendez des enfants s'émerveiller et parler autour des sculptures.
Et puis on insiste sur le fait que l'entrée est gratuite, on ne touche pas mais on admire et on en prend plein les yeux car c'est de l'art avec un grand A, c'est de l'art dans ce qu'il y a de plus beau. En plus, il touche une manière noble comme on vient de le dire qu'est le bois. Alors donc bien sûr vous y serez Patrick.
Oui, oui, je fais à chaque fois des explications et j'insiste sur le fait que les deux sculptures monumentales ne réapparaîtront plus par la suite puisque ça, elles vont partir ailleurs.
D'accord. En tout cas, Patrick Leroux, bien bonne exposition et on vous remercie.
Eh bien, c'est moi et je vous souhaite une excellente journée.
À vous aussi, merci.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Il est né il y a près de 100 ans. Loin de Paris, dans un champ, les pieds presque dans la rivière. Quand il eut quelques 20 printemps, de la vie des paysans, il serait chêne centenaire. Les oiseaux venaient se poser sur ses branches et le dimanche, les amoureux sous lui venaient y faire l'amour. Les amoureux sous lui venaient y faire l'amour. Il vivait il y a 50 ans, loin de Paris, dans un champ à quelques pas d'une rivière. Son fait de narguer le vent et de la vie des quelques paysans, c'était un arbre de bonne terre. Des oiseaux venaient se poser sur ses branches et le dimanche, des amoureux sur lui gravaient des mots d'amour. Des amoureux sur lui gravaient des mots d'amour.
Encourage vivement à vous rendre à cette exposition à l'hôtel de ville de la Bassée. C'est jusque dimanche et vraiment ça vaut le coup d'œil. Croyez-moi et on reste en extase devant certaines pièces de la collection de Patrick Leroux. Patler de son pseudonyme et on peut lui dire chapeau l'artiste. Et bien voilà, c'est avec cette intervention que se termine l'air du temps. Il me reste donc à vous souhaiter une très bonne semaine. Et si vous nous quittez maintenant, très bonne semaine à vous. Mais surtout si vous restez avec moi pour cette prochaine heure, pour Kaléidoscope, et bien je vous dis à tout de suite.